RMC.
C'est le printemps. Votre petit jardin est en effervescence. Il ne demande qu'à être travaillé.
6h-7h, votre jardin.
N'oubliez pas de visiter votre petit jardin matin et soir. Pensez à bien l'aérer, le désherber, lutter contre les mousses et les champignons.
François Sorel, Patrick Mulan.
Et c'est parti, 6h16, nous sommes le 24 novembre 2018 et c'est avec un plaisir non mesuré, les amis, que je vous retrouve. Nous allons passer tout au long de tout ce week-end ensemble, en tout cas le matin, 6-10, vous le savez, le week-end des experts sur RMC. Demain dimanche, 3 heures d'automobile avec Jean-Luc Moreau, toute l'actualité liée à l'automobile et un événement puisque nous recevrons le patron de Toyota demain qui répondra à toutes nos questions. Mais aujourd'hui, en ce samedi, tout à l'heure, la vie numérique, avec Raphaël Grabli, on reviendra sur le phénomène Black Friday, forcément. Comment peut-on faire de bonnes affaires sur Internet? Et puis surtout, si on doit s'équiper en termes de tech. Dans notre rendez-vous santé avec le docteur Christian Ekia, eh bien, on parlera du café. Bah, écoutez, là, à cette heure-ci, en plus, on y est. Quels sont les effets du café sur la santé? Comment peut-on boire? Combien peut-on boire de tasses de café tous les jours? On fera le point. Vous verrez que le café a des vertus assez intéressante. Notre rendez-vous maison, ce sera le chauffage avec Christian PC. Par quoi remplacer les chaudières fuel? Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais dans 10 ans, les chaudières fuel seront interdites. Voilà, alors on en parlera tout à l'heure. Quelles sont les alternatives au fuel? Parce que ça vaut le coup dès aujourd'hui, par exemple, d'acheter une chaudière fuel. Ce sera entre 7 et 8. Mais dans l'immédiat, il est là et il bougonne. J'ai l'impression qu'il a quelque chose à dire sur le chauffage fuel. C'est Patrick Mulan. Monsieur Miu-Miu, bonjour.
Monsieur François, bonjour. Bonjour à tous. C'est très bienvenu au jardin. Oui, je bougonne. Non, mais parce qu'en fait, on vous pousse de temps en temps à faire des choses et puis après la législation vous coupe complètement la tête. Alors bon, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir un discours de gilet jaune, mais c'est un peu ça quand même.
Alors, vous êtes en rouge.
Voilà, ouais, aujourd'hui je suis en rouge, voilà. Donc c'est peut-être la couleur de la colère.
Bon, en tout cas, vous pourrez faire partie du débat tout à l'heure entre 7h et 8h avec Christian PC, hein, pas de souci. Patrick, nous allons être ensemble jusqu'à 7h sur RMC, c'est le rendez-vous jardin, vous le savez, une heure de jardin chaque samedi, 6h-7h, avec bien sûr vos questions. Dès maintenant, vous pouvez nous appeler au 3216 ou via l'appli RMC Direct Studio. Pratique, hein, l'appli RMC, vous nous laissez un petit message, il arrive en temps réel dans notre studio, avec votre numéro de téléphone, on peut vous rappeler, vous pouvez très vite intervenir. Planter à l'automne, c'est le top. Patrick.
Bah oui, parce que demain, nous sommes le 25 novembre. Le 25 novembre, c'est la Sainte-Catherine et tout le monde. S'il y a un dicton, que la France entière connaît.
Tout bois prend
racine, voilà.
Et oui.
Donc évidemment, on pouvait pas passer à côté le fait de faire des plantations d'automne. D'autant que il y a un transfert depuis quelques années sur le printemps et qu'on oublie un peu, peut-être dans les jeunes générations, que la plantation d'automne, c'est bien mieux. Donc on va en parler tout à l'heure et vous rappeler les fondamentaux, notamment si vous êtes jardinier débutant, restez avec nous.
Voilà, on retrouvera aussi votre coup de gueule de ce samedi matin. On va parler des nids de frelons asiatiques.
Ben oui, je vous montrerai qu'en fait, c'est l'État qui doit prendre en charge la destruction des nids de frelons. Or, la plupart du temps, quand vous avez un nid de frelons dans votre jardin, alors d'abord, les pompiers ne veulent pas les détruire, donc vous appelez la mairie et on vous dit, vous vous débrouillez, vous allez sur Internet, il y a des gens qui vous font ça parfois très cher, jusqu'à 200 euros, et donc c'est inadmissible.
On en parle tout à l'heure.
Oui.
Et puis bien évidemment, je le disais, dès maintenant, vos questions, 3216, ou alors via l'appli RMC Direct Studio. Bienvenue à vous toutes et à vous tous dans ce rendez-vous unique. Hein. Seul RMC vous propose une heure de jardin chaque samedi entre 6h et 7h. Et avant d'accueillir Jean-Claude qui nous attend au 3216 pour nous parler de son cerisier, eh bien c'est le conseil de l'expert de ce samedi. Quelles boutures réaliser en ce moment et comment les réussir, Patrick?
Oui, alors en ce moment on fait ce qu'on appelle des boutures à bois sec. Ça veut dire quoi les boutures à bois sec? Eh bien ça veut dire que l'on va prendre toutes les plantes qui ont perdu naturellement leurs feuilles, donc tous les végétaux que l'on appelle des caducs, pour utiliser leurs jeunes rameaux pour pouvoir faire des boutures. Et ça, c'est assez intéressant parce que on a des très très bons résultats. Par exemple, avec les saules, les peupliers, le forsythia, le groseillier, le framboisé, le lilas, même le jasmin d'hiver, même s'il est en fleur d'ailleurs lui, eh bien, vous allez avoir quasiment 100% de réussite sur vos boutures. On peut aussi donc bouturer les variétés anciennes de rosiers. Alors là, on a un petit pourcentage un peu moindre, autour de 60%. 70-80%. Mm-hmm. Et puis alors figuier, spirée, deuxia, végéla, seringa, sureau, nana, enfin, etc. Tout ça autour de 50-60%, vous allez avoir de reprise. Donc c'est extrêmement simple de se faire en fait un petit jardin gratuitement en allant couper quelques branches de chez les copains, et puis voilà.
Bon, alors on va revenir quand même sur le bouturage à bois sec. Comment ça marche, Patrick ?
Alors bois sec, donc je rappelle, ça veut dire que les rameaux doivent être débarrassés de leurs feuilles. Donc toutes les plantes qui sont à feuillage persistant, elles, c'est trop tard. Il fallait les bouturer en fin d'été. On pourra recommencer au printemps. Donc entre novembre et février, donc pendant cette période de dormance, on va pouvoir donc utiliser le fait de la dormance pour que les plantes puissent être bouturées. Alors attention, ça ne marche que lentement. Là, en ce moment, vous coupez vos boutures, vous allez les mettre dans le sol, mais elles ne vont pas reprendre tout de suite. Ça reste en dormance. C'est au printemps que ça redémarrera. Alors, au niveau du conseil, on prélève toujours donc des rameaux jeunes, donc des pousses d'extrémité, bien droites, vigoureuses, et on va utiliser essentiellement la partie moyenne du rameau. C'est-à-dire que ce qui est en haut, à l'extrémité, c'est trop mou, c'est trop fin. Et puis ce qui est à la base, en général, c'est un peu trop dur, un peu trop costaud, et donc ça s'enracine plus difficilement. Alors c'est quoi une bouture ? Eh bien, cette bouture, elle doit faire entre 15 et 20 cm de hauteur. En haut, vous coupez au-dessus d'un œil. Mmh. Alors, quand on coupe sur des plantes qui ont des feuilles que l'on appelle alternes, vous avez un œil qui va à droite, un œil qui va à gauche. Donc vous coupez toujours en biseau, on va dire parallèle à la direction que prend l'œil. S'il va vers la droite, bah vous faites un biseau qui va vers la droite. Et puis, en dessous, à vos 15-20 cm, vous allez couper en dessous d'un œil. Parce que ces yeux, alors donc, c'est quoi les yeux d'ailleurs hein ? C'est les bourgeons qui en ce moment sont latents. C'est eux qui vont, quand ils vont être enterrés, générer des racines. Et la partie qui va être, elle, à l'air libre, générer les futurs rameaux. Donc ils sont extrêmement importants. Alors ce que l'on fait en général en ce moment, c'est que on plante pas forcément ces boutures déjà bien dans le sol. Vous pouvez, sur une même plante, pour être sûr d'avoir un petit peu de réussite, vous en prenez 5 à 10, vous allez réunir toutes vos boutures dans un petit fagot, vous les attachez, alors... N'oubliez pas un truc, mettez quand même une étiquette, parce qu'une fois que vous avez des bouts de bois, vous savez vraiment plus que
c'est ça.
Donc vous coupez sur votre forcicia. Enfin, forcicia, c'est facile, parce qu'il y a des petites pustules qu'on appelle des lenticelles, mais mettons, je sais pas, sur des lilas, vous coupez, vous réunissez vos boutures, vous mettez une petite étiquette, et vous les plantez. Alors, aux trois quarts enterrés, dans du sable, là, simplement, par exemple, au pied d'un mur, ou au pied d'une haie.
D'accord. Que peut-on bouturer en ce moment ?
Alors on va faire autre chose. Alors je vous ai parlé des boutures à bois sec qui concernent un petit peu les arbustes ou les arbres, mais on peut faire des boutures d'écailles de bulbes de lys. Un bulbe de lys, c'est une sorte d'ensemble d'écailles un peu les uns sur les autres. Chaque écaille peut vous donner un petit lys. Et puis on fait aussi des boutures. Alors ça c'est une autre technique un peu plus complexe de tronçons de racines. Alors qu'avec des pavots, des lupins, les acanthes, les phlox par exemple, vous connaissez du Japon. Donc là on va prendre des morceaux de racines, on va les mettre en pot. Alors en pot, attention, mélange très léger, sable et tourbe par moitié. Il ne faut vraiment pas que ça soit collant, parce que sinon vous avez ce qu'on appelle la fonte des semis, qui est un cryptogame, un champignon qui va détruire tout cela.
Voilà pour le bouturage. Jean-Claude nous attend au 32-16. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour messieurs, bonjour à tous les auditeurs et merci de prendre mon appel.
Bonjour, ça c'est une belle introduction Jean-Claude, vous avez été parfait.
Merci. Voilà, j'ai un terrain d'environ 2000 m2, j'ai planté pas mal d'arbres fruitiers, cerisiers, abricotiers, pruniers, etc. Et là j'ai un cerisier que j'ai planté depuis environ 5-6 ans, c'est un cerisier auto-fertile qu'on appelle. Et donc l'année dernière il m'a fait pour une cinquantaine de cerises, et 8-10 jours avant qu'il soit mûr, il s'est tombé par terre et les feuilles roulaient. Donc l'année dernière, au mois de novembre, j'ai acheté des feuilles, j'ai passé bouillir bordelaise. Là, cette année, au mois de mars, au débourrement de bourgeois, j'ai passé bouillir bordelaise. Et ça encore pareil. 15 jours avant, les cerises tombent par terre. Bon, est-ce que c'est une mauvaise bouture ? Est-ce que c'est l'emplacement qui ne convient pas ? Je ne sais pas.
Mais moi, je voudrais savoir pourquoi vous faites systématiquement de la bouillie bordelaise.
Parce qu'on m'avait dit, il faut la faire à la chute des feuilles.
Oui, mais ça, vous faites ça quand vous avez des maladies cryptogamique. C'est-à-dire que si vous avez des taches d'anthracnose ou de la rouille, etc., vous allez utiliser la bouillie bordelaise. C'est un fongicide, c'est-à-dire que ça lutte contre les maladies qui sont transmises par des champignons. Dans votre cas, vous avez 9 chances sur 10 que ça soit une mouche. Alors, dans votre région, parce que j'entends votre accent, je pense que vous êtes un peu dans le midi.
Oh, je pense que je suis pas sûr, hein, Jean.
par Toulon.
Voilà, ah oui, Toulon, vous avez à la fois la mouche méditerranéenne des fruits, et vous avez aussi la mouche de la cerise. Et ça, dans votre cas, je pense que c'est absolument cela. Donc, ce qu'il faut faire, c'est assez compliqué parce qu'on peut pas vraiment lutter aujourd'hui. Puis, de toute façon, les insecticides, on en a pratiquement pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est à partir du moment où les cerises vont commencer à être formées, c'est-à-dire vers le mois de mai, vous tendez au pied de votre cerisier une toile, une bâche, de manière à récupérer les larves qui vont tomber après avoir boulotté toutes vos cerises. Bon, on peut faire un truc, c'est mettre des pièges à phéromones. On en trouve facilement pour la mouche de la cerise.
Ah oui, c'est
dans les arbres.
Mal, ça.
Oui, mais pour que ça soit efficace en tant que lutte, il faudra en mettre une dizaine par arbre. Mm-hmm. C'est totalement ruineux.
Bien sûr.
Donc il vaut mieux faire ce que je vous dis, c'est-à-dire que la première année, vous allez complètement perdre encore une fois votre récolte de cerises.
On va récolter en fait les petites larves.
Eh oui François, on va récolter les ennemis. On va les empêcher surtout de s'enfoncer dans le sol pour pouvoir se nymphoser. Donc ils vont se dessécher à l'air libre. Là, vous pouvez même utiliser un insecticide de contact naturel comme l'épirette naturelle quand vous avez pulvérisé sur votre bâche. D'accord. Là, vous allez les tuer. Mm-hmm. Et donc, du coup, vous allez réduire considérablement les risques. Et l'année prochaine, dans 2 ans, vous aurez vraiment une récolte correcte. Alors, vous m'avez parlé d'un cerisier autofertile. Sachez que ça existe un peu, entre guillemets. Mais s'il y avait d'autres cerisiers dans le coin, pour la fécondation, ça serait pas mal non plus. Hein. Mais ça n'empêcherait pas quand même l'attaque que vous avez avec ces mouches qui sont très très virulentes, hein, notamment dans le midi.
Merci beaucoup Jean-Claude. Dans un instant, nous allons planter. Et oui, c'est la période. Et Patrick nous réserve son dossier de ce samedi matin sur ce sujet. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Catherine, le jour où je t'ai vu. Catherine, aussitôt tu m'as plu. Dans ta chambre, Catherine, je venais à minuit. Tu m'embrassais.
Ah, il venait à minuit dans sa chambre quand même.
Oh là là. Donc ah ouais. Là, on a pris un coup de vieux, là.
Là, c'est lui qui prenait racine, hein, si je peux me permettre, là.
Je sais pas, c'est Lucienne Delisle, c'est quelqu'un
qui chante. C'est qui chante, là, Paul? On sait de qui il s'agit? Les compagnons de la chanson, mon Dieu! Et je vois Christian Pessé lever les bras.
Avec Edith Piaf,
Comment?
Avec Edith Piaf.
Avec Edith Piaf? Non, je ne sais pas. Écoutez, bon, là, on s'éloigne un peu. On n'a pas l'expertise des chansons des années. C'est quoi, là? On est en quelle période? 50. Voilà, donc c'est vrai que on n'a pas cette expertise-là. Bon, écoutez, tout ça pour vous annoncer, vous avez vu de bien belle manière, hein, demain c'est la Sainte
Catherine.
Et forcément, voilà. Tout bois prend racine.
Voilà.
Et c'est notre dossier de ce samedi matin sur RMC. Planté à l'automne, Patrick, il n'y a pas chipoté, c'est bien mieux.
Alors c'est bien mieux pour beaucoup de plantes. Alors attention, hein. Là, on va parler essentiellement quand même des plantes qui sont rustiques, donc qui sont adaptées à notre climat. Si vous voulez, dans la région parisienne, introduire des agrumes, des bougainvilliers, enfin tout ce qui est méditerranéen, là, vous attendez quand même le printemps, que les gelées soient plus à craindre. Parce que on va mettre en terre, là, en ce moment, des végétaux qui vont devoir résister quand même à la période hivernale. Alors, l'intérêt de cette Sainte-Catherine où tout bois prend racine, d'abord, il faut quand même se revenir, c'est pas uniquement le jour de la Sainte-Catherine, hein, c'est pas le Black Friday du jardin, ça. C'est la Sainte-Catherine démarre, en fait, un petit peu la grande saison de plantation qui va aller jusqu'à la fin février, c'est-à-dire pendant toute la période de dormance de la végétation.
Patrick, pourquoi on dit qu'à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine?
Mais justement, je viens d'évoquer le mot dormance, et à ce moment-là, le métabolisme de la plante se ralentit. Donc, une fois qu'elle est dormante, c'est un peu comme quand on vous fait une anesthésie, la plante est insensible aux agressions extérieures. Et donc, elle va par conséquent résister d'abord à l'arrachage, parce que n'oubliez pas qu'à moins d'acheter des plantes qui sont en conteneur, et donc qui ont été cultivées dans ces pots, lorsque vous achetez une plante à racines nues, alors c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, mais c'est quand même intéressant en cette saison, eh bien, il faut d'abord l'arracher, ou même peut-être que dans votre propre jardin, vous avez besoin de ce qu'on appelle faire une transplantation, c'est-à-dire d'arracher une plante qui était mal située ou qui était qui se plaisait pas à tel endroit pour la mettre ailleurs. Donc ça, le fait d'arracher en ce moment la plante qui est en dormance, eh bien, elle va pas risquer d'avoir de problèmes, puisque en fait, on va dire globalement, elle se rend pas compte des bouleversements
de son
environnement à cette époque. Et puis, en ce moment, il n'y a pas de ravageurs. Les agresseurs, les bioagresseurs, comme on dit aujourd'hui, ils sont endormis eux aussi. Mm-hmm. Donc la plante, elle a tout son temps. Et puis, elle n'a pas besoin non plus de pousser. En ce moment, elle n'a pas de croissance. Donc toute l'énergie qu'elle peut encore avoir, elle va le développer pour ses racines. Et donc, lorsque vous plantez à l'automne, vous plantez pour les racines. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant au niveau de la solidité future de votre plantation.
C'est la température qui gère tout ça, on va dire. Si, voilà, on est aux alentours des 0 degrés, tout le monde dort, et ça se réveille quand les températures remontent.
Non, parce que vous avez aussi la longueur du jour. Actuellement, la dormance, elle est effective tant que la température, on va dire, ne dépasse pas les 12-14 degrés.
D'accord.
Lorsque on a des hivers particulièrement doux, c'est vrai que vous avez des réveils.
Mm-hmm.
Et là, on voit effectivement les bourgeons qui commencent à grossir, etc. Mais il faut quand même que ça se produise sur plusieurs jours. C'est pas parce qu'à un moment vous allez avoir une journée à 15 degrés que
ça,
ça s'arrête. Non. Mm-hmm. La plante, elle est vraiment dormante et c'est son métabolisme qui est comme cela. Et ça, c'est quand même très très important. En revanche, bon, c'est vrai que on ne plante pas ou pas beaucoup les plantes à feuillage persistant en ce moment parce qu'elles sont encore en action. Mais si vous êtes dans une région au climat relativement doux, bien évidemment, vous pouvez aussi planter tout ce qui est à feuillage persistant.
On a plutôt l'habitude de planter au printemps, Patrick, mais quels sont les avantages d'une plantation en ce moment ?
Alors, ce que je disais déjà, je vous ai expliqué le phénomène métabolique, mais il n'y a pas de sécheresse en ce moment. On n'a pas à supporter ces longues périodes qu'on a connues notamment cette année, où là, les plantes sont en souffrance. Là, on a de l'humidité. Le sol va être bien imbibé. Donc la terre, elle est un peu au repos, si vous voulez, mais aussi, n'oubliez pas, la terre, ça réagit pas comme l'air. La chaleur qui a été emmagasinée pendant tout l'été, eh bien, elle peut être restituée quand même à la plante. Et puis donc, ces bruines, ces pluies qu'on a, alors, ça dépend des régions. Il y a eu des orages violents, notamment sur le sud. Mais globalement, par exemple, hier, j'étais en Vendée. On avait une pluie formidable pour les plantes. C'était une pluie régulière, assez fine, avec des gouttelettes. Donc, vous avez cette humidité. Et ça, les plantes adorent. Et puis, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que nos plantes de jardin qui sont en repos. La végétation sauvage, donc ce qu'on appelle parfois les mauvaises herbes, a pris aussi ses quartiers d'hiver. Donc vous n'avez pas de concurrence en ce moment avec les nouvelles plantations. Et puis donc du coup, une fois que vous aurez laissé passer tout l'hiver la plante tranquillement dans son endroit, eh bien elle va pouvoir se réveiller au printemps et là, mettre toute son énergie pour sa croissance. Alors il faut savoir qu'on gagne parfois, notamment sur les arbres fruitiers, on peut quasiment gagner une année en plantant à l'automne, parce que là, dès le printemps, vous allez avoir la végétation, alors que si vous plantez au printemps, souvent, il y a un décalage. Et donc, il n'y a pas de fructification la première année. Même si c'est pas très important, parce que je vous conseille, c'est un bon conseil. Si vous avez planté un arbre fruitier cet automne, ou mettons même ce printemps, eh bien, ne laissez pas de fruits pour que la plante, justement, puisse bien s'installer et bien se reconstituer. Parce que faire des fruits, ça demande beaucoup plus d'énergie que de faire des feuilles.
Vous avez des questions sur les plantations actuelles, voilà, parce que vous avez envie de préparer votre jardin pour les beaux jours, c'est le moment ou jamais, n'hésitez pas, on est en direct, Patrick Mulan peut répondre à toutes vos questions dès maintenant. Vous avez le 3216, Amina vous attend au standard, vous pouvez nous appeler, ou via l'appli RMC et Direct Studio sur votre smartphone. Qu'est-ce qu'on peut planter sans risque, Patrick, en ce moment ?
Alors, ce que je disais, c'est donc toutes les plantes qui ont un feuillage caduc, donc tous les arbres et arbustes qui sont sans feuilles en ce moment. Bon, on plante, je vous rappelle quand même aussi, les bulbes de printemps, ça reste encore la bonne période, jusqu'à tout début décembre, vous êtes encore dans une très très bonne période pour planter les bulbes de printemps. Donc vous avez les vivaces, vous avez les rosiers, vous avez les fruitiers, les fraisiers, les grimpantes, les plantes de terre de bruyère même. Bon, elles commencent peut-être à être un peu tardives pour la plantation, mais ça convient bien. Les conifères, donc, qui ont des feuilles tout le temps, mais qui sont très rustiques, ça marche quand même aussi très 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 bien. Donc voilà, vous avez vraiment pratiquement toutes les plantes, sauf comme je vous disais, les friteuses que l'on va pas planter maintenant.
Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant d'effectuer toutes ces plantations?
Alors oui, je vous conseille, alors là c'est très, c'est pas très technique, c'est très pratique, c'est d'ailleurs, vous préparez d'abord vos trous de plantation à l'avance, de façon à ce que justement l'humidité qu'on a, les précipitations, là viennent s'intégrer en profondeur, qu'il y ait un ameublissement naturel qui puisse se faire, que la terre soit bien imbibée d'humidité. N'oubliez pas, lorsque vous allez extraire la terre de votre trou, alors si vous pouvez le faire le plus grand possible, ça sera toujours bien, notamment pour des arbres. Parce que plus vous allez avoir remué de volume de terre, et plus les racines vont pouvoir s'infiltrer en profondeur. Donc quand vous allez extraire la terre, vous séparez bien la terre du dessus, qu'on appelle le sol, avec la terre du dessous, dont la couleur est très différente, et qu'on appelle le sous-sol. Ça, le sous-sol, lui, il est pas vivant, il sert simplement d'ancrage. Et en revanche, la terre de surface, en général sur une vingtaine de centimètres, elle est plus sombre et elle est plus vivante. Et là, vous allez l'ameublir, vous allez lui apporter du compost, vous allez lui apporter de cette matière organique qui va enrichir en micro-organismes et donc la rendre encore plus vivante, plus attractive. Et puis, dans la partie sous-sol, en revanche, vous allez mettre ce qu'on appelle un engrais de fond. Donc c'est quoi l'engrais de fond? Ben, c'est de la corne torréfiée, c'est des engrais que l'on appelle vraiment engrais de fond, qui vont se décomposer extrêmement lentement. N'oubliez pas, sur un arbre par exemple, il faut un tuteur, parce que au départ, la plante elle est jeune et elle est pas vraiment costaud. Donc on plante le tuteur avant la plante. Parce que imaginez que vous mettez votre arbre, et puis d'un coup vous dites, Vincent, j'ai pas mis de tuteur. Vous allez prendre le tuteur, vous allez le planter, mais vous risquez d'abîmer les racines. Donc non, on va mettre le tuteur d'abord. Et une fois que vous avez déjà fait ces trous de plantation, enfin, ou du moins avant de faire les trous de plantation, pensez à la distance. Il faut pas trop serrer les plantes, hormis dans les haies. Pourquoi? Eh bien d'abord, il faut les laisser s'exprimer normalement, mais également, il faut éviter qu'elles soient confinées, parce que plus elles sont serrées, et plus il y a des risques de développement de maladies cryptogamiques. Donc ça, le fait de laisser l'air circuler entre les plantes, ça vous évite, ou du moins ça réduit les risques de maladies. Et puis, alors un truc vraiment de base, vous allez me dire, il radote, non, mais la plupart des gens oublient. Quand vous achetez une plante en pépinière, c'est un bébé. Donc tenez bien compte, renseignez-vous sur la taille adulte prévisible de l'arbre, sur tous les arbres. Donc souvent, on plante trop près de la maison, au bout de 10 ans, on a des branches qui viennent au-dessus du toit, on est embêté comme tout, parce que ça demande de l'escalade et tout ça pour faire de la taille, et puis ça abîme la plante. Donc voilà, et puis dernière chose, respecter quand même les distances légales. Oui. Donc je vous rappelle que au niveau des limites séparatives de propriété, vous devez planter à minima 50 cm de distance les plantes de moins de 2 mètres de hauteur à l'âge adulte, et que les plantes plus grandes, donc qui font plus de 2 mètres, elles doivent être plantées au moins à 2 mètres de la clôture.
Voilà, comme ça on est tranquille et on n'embête pas les voisins. Sur Direct Studio, on a Georges qui nous dit « J'ai planté un sumac de Virginie au mois d'octobre. »
Oui.
Il est à Mulhouse, hein.
C'est quand même. Oui, ça va, c'est un rustifinal.
Une précision importante. Il a planté donc ce sumac de Virginie au mois d'octobre, 20 cm de hauteur. Et à l'heure actuelle, il a perdu toutes ses branches. Il ne reste plus que le tronc. Est-ce que c'est normal?
Ah ben non, on perd pas ses branches. Non, il a dû perdre ses feuilles parce que ça, c'est pas possible.
Oui. Qui perdent ses branches?
Non.
Même s'il est mort, il y aura toujours ses branches accrochées.
Ah, oui. Donc là, il y a un problème. Non. Bon, mais. Un sumac de Virginie de 20 cm de hauteur, sachant, bon, cette plante-là, les botanistes l'appellent rustifina, vous savez, c'est un grand arbuste, même un arbrisseau, qui a des feuilles panachées, des rameaux tout velus, on dirait vraiment du velours, et surtout un feuillage à l'automne, mais alors, un enchantement de couleurs. Et ça vous fait des inflorescences verticales en forme de pyramide et qui, elles aussi, sont toutes veloutées, rouge foncé, assez rigolotes. Bon, il y a des gens, attention, sur le russe, il y a des gens qui sont allergiques, justement, à ce duvet.
Tiens.
Donc faites attention quand vous plantez. 20 centimètres, c'est vraiment un bébé de chez bébé. Donc la plante, de toute façon, elle est caduque. Donc peut-être qu'elle a perdu ses feuilles, mais ça serait normal. Donc de toute façon,
on laisse tranquille là.
Bah oui, évidemment, on va laisser tranquille jusqu'au printemps, voir
on
si
verra
ça
bien
redémarre.
Ce qui se passe.
D'accord. Et oui.
Parfait. Merci en tout cas, Georges, pour votre appel. Et si tout comme Georges, vous voulez discuter avec nous, poser vos questions, 3216 ou via l'appli RMC et Direct Studio. Hein. D'ailleurs, la question de Georges, on l'a reçue sur Direct Studio. On revient dans un instant avec Chris qui sera là, et puis la météo du jardinier aussi. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Vous allez voir, c'est pas joli joli. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-7h, votre jardin. RMC, jusqu'à 7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Et à partir de 7h, on retrouvera la maison avec Christian PC. On évoquera le chauffage. Mais auparavant, Patrick. Christian, ce sera tout à l'heure, mais parce que je vois que Christian est arrivé au 32-16.
Il y a déjà deux Christian, mais il aimerait bien que tout le monde s'appelle Christian, ça serait plus facile.
Ça serait. Oui. Mais bon, le problème, c'est que dès que je hellerai Christian, j'en aurai plein qui arriveraient en studio. Ouais. C'est ça le souci. Nous avons Chris et Christian qui nous attendent au 32-16. On va les accueillir tout de suite. On commence par Chris qui est là. Bonjour Chris.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour Chris.
Très contente de vous avoir au téléphone.
Pareillement.
Voilà, je vous appelle du Gers. Là, j'ai un arbre qui s'appelle une cénote arbusive. Je pense que.
Cénote
arbusive. Voilà. Elle a été plantée il y a bien 7-8 ans. Toute petite, maintenant elle est immense. Et la particularité qu'elle a développée, c'est qu'elle a plein de branches, des gros troncs qui poussent au ras du sol. Sur la terre.
Oui.
Et donc, on voudrait les couper parce qu'elle est de plus en plus envahissante de manière à lui redonner une allure agréable, aérée, quoi.
C'est un autre persistant à fleurs bleues au printemps?
Oui.
Ouais,
oui,
c'est ça. Oui. Donc, mais là, il n'y a pas de problème. Hein. Les plantes qui développent des rameaux au ras du sol, ça, vous pouvez les couper. Ou alors, vous pouvez vous amuser à les laisser s'enraciner naturellement. Ils vont faire une marcotte, puis à ce moment-là, vous les coupez, ça vous fait une autre plante à donner à des amis, par exemple. Mais non, mais si vous avez besoin de couper des plantes, enfin des rameaux en bas, c'est toujours plus facile que de couper en haut, parce qu'en haut, c'est là que se développe toute la croissance, alors qu'en bas, vous avez des branches vieilles. En cette saison, c'est tout à fait adéquat, hein, donc il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez attendre la fin de la floraison pour en profiter, et puis vous coupez juste après. Pas de problème.
Très bien, on l'accueille maintenant. Merci Chris, en tout cas, pour votre appel. Christian est là. Bonjour Christian.
Bonjour.
Christian, en Corse du Sud.
Oui, voilà, Ajaccio, Alata, exactement.
Parfait, juste au-dessus d'Ajaccio, d'accord. Bon, profitez bien des 19 degrés que vous aurez aujourd'hui, hein, parce que nous, on en est loin.
Là, on est très bien, nous.
Qu'est-ce qui vous arrive, Christian? On vous écoute.
Eh bien, voilà, j'avais planté depuis quelques années plein d'agrumes sur le continent en attendant de venir à Ajaccio. Et puis, bon, ils ont pris un petit coup de sécheresse parce que j'étais pas là-bas cet été. Je les ai rapatriés il y a un mois. Je les ai mis en jauge et je voudrais savoir quoi faire parce qu'ils sont pas vraiment bon état.
Ben là, il faut les planter définitivement. Vous êtes dans la, on vient dans.
Ah oui. Maintenant, je suis prêt à les planter.
Ben voilà, il faut les faire. Il faut le faire.
C'est le moment.
On vient de développer tout l'argumentaire pourquoi c'était intéressant de planter. Alors, je disais que c'était surtout pour des plantes rustiques, donc pour les agrumes. Or, Corse, on peut éviter, mais là, vous êtes vraiment dans une région où les agrumes poussent tout seuls, donc n'hésitez surtout pas à les planter. Alors, faites un bon trou, mettez un peu de matière organique, mais pas trop, parce que sinon, ça va faire pousser le feuillage à la place des fruits. Et puis, surtout, arroser, parce que bon, en ce moment, je crois que vous êtes sous...
Il y a pas mal
d'orages, etc.
Non,
donc
nous, ça va.
La nature le fait bien. Donc c'est l'idéal en ce moment, puisque votre terre, elle s'est bien imbibée avec toute la pluie que vous avez reçue. Mais quand même, au moment de la plantation, vous arrosez. Hein, de toute façon, ça c'est important.
Ils commencent à perdre des feuilles, c'est normal.
Parce qu'ils sont pas trop en forme. Peut-être le fait de les avoir transplantés, ramenés du continent vers la Corse, enfin tout ça. Les plantes, vous savez, c'est quand même normalement fait pour s'installer dans un endroit et pas être déménagées de partout. Donc il faut qu'elles prennent le temps d'apprécier le jardin de Corse, et je crois qu'elles vont le faire. Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas que les agrumes qui apprécient les jardins de Corse. Merci Christian, et belle journée donc au-dessus d'Ajaccio. Et on a Olivier aussi au 32-16. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Bonjour Olivier, bienvenue.
Bienvenue Olivier.
Merci.
Vous êtes où?
Je suis à Bordeaux.
À Bordeaux, d'accord.
Je vous écoute.
Je vous appelle parce que j'ai planté un pin parasol dans mon jardin depuis 4-5 ans. 4-5 ans, je pense, maintenant. Et en fait, je voulais commencer à tailler les premières branches du bas, en fait, oui, qui partent, enfin, les plus proches du sol. Et je me demandais, en fait, à quelle période je pouvais le faire.
Eh bien, c'est bien parti, c'est le moment absolu. Vous avez jusqu'à mi-février environ. Alors, en fait, ça, lorsque le temps est assez clément, comme en ce moment, quand on parle assez clément en cette saison, c'est qu'il ne gèle pas, et donc vous pouvez intervenir. Au contraire, c'est tout à fait bien. La plante est en semi-dormance puisque c'est persistant, mais ça lui conviendra tout à fait. Et puis, comme je disais à Chris tout à l'heure, donc les branches basses, bon bah ça s'élimine sans aucun problème.
Allez, on ratiboise le pin parasol, Olivier.
Non, on ratiboise pas. Non. On va lui permettre de faire son tronc et justement d'étaler son parasol.
Voilà, donc on le...
François, dès qu'il a un sécateur à la main, il part en guerre.
Ah, c'est vous qui m'avez appris ça, hein, attendez.
Non,
Patrick.
Avec modération.
6h51. Allez, on jette un œil rapide sur la météo du jardinier, Patrick.
Oui.
Qu'est-ce qui nous attend cette semaine?
Plutôt plus frais, plutôt plus froid et surtout pas mal pluvieux. Alors, si vous voulez que je résume en une seule phrase, c'est vraiment pas une semaine pour le jardinage.
Ouais.
C'est une semaine dans laquelle vous allez plutôt travailler à la maison, peut-être lire un bon livre, regarder un bon film.
Cultiver, mais différemment.
Voilà, se cultiver différemment, parce que on va avoir quand même des matinées qui vont pouvoir être avec du gel sur la partie est de la France. On aura souvent des moyennes qui seront guère autour de entre 3 et 5 degrés, donc c'est pas terrible, avec quand même peut-être une remontée des températures vers la fin de semaine, mais toujours de la pluie, et pratiquement aucune région ne sera épargnée, sauf, je pense, à partir de mercredi, du côté de la Méditerranée, ça sera un petit peu plus sec, mais ailleurs, il y aura beaucoup de pluie.
Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour le jardin, Patrick?
En ce moment, non, pas particulièrement, sauf si vous habitez des régions dans lesquelles vous cultivez des plantes qui ne devraient pas y être. Hein, donc, on parlait par exemple des agrumes en dehors de la Corse et de la Méditerranée.
Sur ma petite terrasse
Sur Paris intramuros, vous risquez, pour l'instant, vous risquez rien.
D'accord.
Alors, encore une fois, en rapprochant bien les plantes frileuses des angles de la maison, de manière à ce qu'elles soient dans une sorte de petit nid protecteur. Mmh. Il n'y a même pas besoin de mettre
Le petit pyjama.
D'accord. Pour l'instant, ça va.
Très bien. Il est 6h53 sur RMC. On va terminer avec votre coup de cœur et votre coup de gueule. Alors, le coup de gueule pour commencer.
J'avais évoqué, Patrick, tout à l'heure au début de l'émission. Donc, je vous rappelle que la destruction des nids de frelons asiatiques est à la charge de l'État, et ceci depuis un décret du 21 avril 2017. Alors, si vous voulez noter, il s'appelle 2017-595, et donc ce sont les préfets qui ont l'obligation de prendre en charge, sous leur responsabilité, les frais de destruction des nids de frelons.
On a eu rappelons-le, hein, parce que ça décime.
Oui, ça décime les colonies d'abeilles, hein, notamment, et donc ce sont des organismes dont la lutte est obligatoire, enfin envers lesquels la lutte est obligatoire, et donc c'est pris en charge par l'État. Quand votre mairie vous dit, écoutez, vous allez sur internet et vous allez trouver quelqu'un qui va vous le faire moyennant entre 90 et 200 euros, eh bien vous dites non, je suis désolé, c'est à la collectivité de prendre en charge, et ça c'est important. Donc je vous rappelle le décret 2017-595.
Parfait. Le coup de cœur maintenant, un livre.
Alors un super, super beau livre qui est pas vraiment lié au jardin, mais c'est quand même sur des milieux naturels qui sont tellement intéressants. Il s'appelle Oasis de Frank Tack chez Plume de Carotte. C'est un très grand livre. Il fait 28 par 32 centimètres, 225 pages et des photos à tomber par terre. Ce personnage, il se balade avec, comment on appelle ça? Un paramoteur. Vous savez, donc un parachute avec un moteur.
Oui, oui.
Et du coup, il vous fait des photos aériennes de désert et d'oasis. Super, il y a un très très beau reportage et paragraphe sur les palmiers, évidemment, les dattiers, l'écologie de tout ça au niveau du désert. On ne parle pas suffisamment des déserts, et ça montre aussi qu'il est possible de vivre dans des zones sèches, et ça c'est quand même très intéressant. Donc Oasis de Frank Tack chez Plume de Carotte, ça vaut 39 euros, et encore une fois, comme je dis souvent, ça les vaut.
Voilà, et en ces périodes de froid et de grisaille, ça nous fait un peu voyager.
Ça fait du bien.
On est d'accord. Patrick, merci. On sera là samedi prochain, bien sûr.
Eh oui, on sera là la semaine prochaine, et on reparlera donc des plantations, parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Donc la bise aux jardinières et à la petite jardinière, et je vous dis bien sûr la semaine prochaine.
Et dans un instant, Christian PC prend le relais.
Mais
salut Christian.
Oui, ça va très bien.
Alors, on va parler des chaudières fuel qui, dans 10 ans,
eh oui,
vont disparaître.
Alors, elles vont disparaître. Ça veut dire qu'elles ne seront plus mises sur le marché. Hein. Il n'y a pas un inspecteur qui va venir chez vous pour voir si vous avez une chaudière fuel ou pas. Mais de toute façon, je pense que du coup, il y aura de moins en moins de fuel sur le marché et le fuel sera de plus en plus cher. Alors, par quoi on les remplace? Parce que c'est bien beau de dire qu'on va supprimer. Il y en a encore quelques millions.
Et voilà, quelles sont les alternatives justement? On en parle tout à l'heure.
En énergie renouvelable.
Et bien sûr, toutes vos questions sur ce sujet dès maintenant au 32-16 ou via l'appli RMC Direct Studio. On revient après la météo, les infos et l'actu sport. À tout de suite.